France Inter.
Aujourd'hui, l'hygiène dans le Paris du Moyen-Âge, racontée par
Hélène Noisé, professeure d'histoire médiévale à l'Université de Paris 8.
France Inter, La Terre au carré, Mathieu Vidard.
Paris début du XIIe siècle. Oubliez les cartes postales, les rues sont étroites, boueuses, saturées de détritus. On y croise pas seulement les badauds et les marchands, mais aussi une armée de porcs, véritables éboueurs à quatre pattes. On leur accroche une clochette autour du cou et on les laisse divaguer librement pour nettoyer la ville de ses immondices. Ce 13 octobre 1131, le fils aîné du roi Louis VI, le jeune prince Philippe, chevauche dans la capitale. Il a à peine 15 ans. Mais il n'est pas seulement héritier, il est déjà roi associé, couronné à Reims, destiné à succéder à son père. Autour de lui, des cavaliers, des compagnons d'armes, la scène paraît assez banale. Mais soudain, un de ses cochons surgit. Pris de panique, il se jette dans les jambes de l'étalon royal. Le cheval se cabre, Philippe est désarçonné. Sa tête heurte violemment une pierre, on se précipite, on l'emporte dans une maison voisine, en vain. Quelques minutes plus tard, l'héritier du trône rend l'âme. Un accident de cheval à l'époque n'a rien d'exceptionnel, mais la cause de la chute fait scandale. Mourir par la faute d'un porc, animal vil et impur, symbole de saleté et de gloutonnerie, est une humiliation inouïe pour un roi sacré. On parle d'une mort infâme, le royaume semble frappé d'une souillure. Il faut effacer cette tâche et dès le 25 octobre, le cadet du roi, Louis, jusque-là destiné à l'église, est sacré à Reims. C'est lui, devenu Louis VII, qui placera la France sous la protection de la Vierge et choisira la fleur de lys comme emblème de pureté, un symbole né directement du besoin de laver l'opprobre d'une mort impure. Mais la réponse est aussi pratique. Louis VI promulgue aussitôt un édit interdisant la divagation des cochons. C'est la première mesure pour débarrasser Paris de sa crasse. Il faudra des siècles pour en venir à bout. Ainsi, de la mort absurde d'un jeune prince renversé par un cochon, jaillir à la fois un emblème éternel, la fleur de lys, et les premières règles de propreté urbaine à Paris. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter.
Les différentes sources et découvertes témoignent du caractère sophistiqué des soins corporels de l'époque. On se coiffe, on se nettoie les oreilles, et contrairement aux clichés courants, on prend même soin de ses dents. Mais une chose est sûre, tout le monde ne considère pas la propreté comme un signe de vertu. Lorsque Thomas Becket, évêque de Canterbury, est préparé pour ses funérailles, les moines découvrent que son linge de corps grouille de poux et de puces. Pour eux, cette mortification est un motif d'admiration.
L'hygiène au Moyen-Âge, extrait d'un documentaire d'Arte, il y a quelques jours à peine. Bonjour Hélène Noiset.
Bonjour.
L'hygiène à Paris est-elle née grâce ou à cause de cette malheureuse histoire de porc ?
C'est un événement à la fois exceptionnel et ordinaire, exceptionnel par la qualité de la personne, en l'occurrence, qui est morte, effectivement, le fils aîné donc, du roi Louis VI, et en même temps, ordinaire, c'est-à-dire que c'était certainement des accidents qui devaient arriver très régulièrement, quotidiennement, puisque les villes médiévales sont en fait autant humaines qu'animales, c'est-à-dire ouais. Qu'il y a une quantité d'animaux qui circulent en ville beaucoup plus importante que ce qu'on imagine aujourd'hui.
Ouais. Alors qu'est-ce qu'on imagine ? Décrivez-nous une rue du Moyen-Âge à Paris. Alors, elles sont boueuses d'abord ?
Oui, effectivement, en gros, elles sont boueuses. Certaines sont pavées, puisque depuis Philippe Auguste, parce qu'il y avait justement trop de boue dans les rues, on demande, et le roi met en place une législation pour obliger le pavage des rues. Mais ce ne sont que certaines rues, les rues qui sont considérées comme les plus importantes pour la circulation, l'approvisionnement de la ville. La plupart des rues, donc, sinon, sont en terre. Elles sont aussi configurées pour permettre les écoulements. Il y a en fait plein de petits ruisseaux qui passent au milieu des rues, et le réseau viaire est largement construit autour de ces écoulements superficiels. Donc
c'est le réseau d'évacuation un petit peu déjà ou...
Tout à fait. Il y a vraiment le réseau des voies, et ça c'est spécifique du Moyen-Âge, c'est construit autour du réseau hydrographique superficiel.
Ouais. Donc des animaux et des hommes.
Alors, des animaux.
C'est très encombré.
C'est très encombré. Ouais. C'est très encombré. Alors, il y a parmi les animaux, c'est essentiellement des chevaux et des porcs. Mmh. Le cheval, c'est évidemment le principal moyen de locomotion. Et ils sont très présents en ville. Ça veut dire qu'il y a toute une série d'infrastructures techniques qui sont nécessaires. Ça veut dire qu'il faut des écuries, des abreuvoirs, partout, comme un équipement urbain de base, c'est-à-dire comme aujourd'hui on aurait une place de parking. Ah oui. On a aussi donc les porcs qui divaguent beaucoup, qui sont vraiment très 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 nombreux.
Donc ça circule librement, hein, c'est ça qu'il faut imaginer.
Alors, en théorie, non, et en pratique, oui. C'est aussi lié au fait que le commerce de viande au Moyen-Âge est très soumis à la nécessité, à la fois des contraintes d'hygiène, ce qui fait qu'on n'abat pas les animaux pour la consommation humaine, on ne les abat pas en amont avant d'arriver en ville. En fait, les animaux arrivent vivants. Ouais. En ville, ils sont achetés, marchandés, négociés, donc ils arrivent sur pattes en fait. Et ensuite, les bouchers doivent les abattre en quelque sorte à la demande dans leur boucherie, à la vue de tout le monde. C'est absolument essentiel que le travail d'abattage de la viande soit vu par tout le monde et qu'on puisse assurer que la viande qu'on achète vient d'être abattue et qu'on n'a pas été ramassé une charogne qui traîne. Parce que sinon, ça veut dire que on assimile l'homme à un loup en fait. C'est la peur de la lycanthropie. Il faut que les humains mangent la viande dont on est certaine qu'elle vient d'être abattue. Donc les animaux arrivent vivants en ville.
Ouais, donc des porcs, des chevaux, des chiens errants, j'imagine, des chats,
oui.
Des rats.
Oui, oui, oui. Tout
ce petit monde compose le paysage animal de Paris.
Et effectivement, c'est très encombré. Les rues ordinaires, on va dire, peuvent faire entre 3 et 4 mètres de large, ce qui est en fait assez peu, hein, bon, excepté les grandes artères. Et on a aussi une sensation, sûrement, d'encombrement, parce qu'on a un habitat qui est essentiellement en pan de bois, donc avec un rez-de-chaussée en pierre, mais des élévations en pan de bois, ce qu'on appelle aujourd'hui les maisons à colombage. En fait, avec un surplomb, c'est-à-dire que chaque étage gagne un petit peu de place, hein, de surface par rapport à l'étage précédent, ce qui fait que les rues ont une espèce d'aspect un petit peu de tunnel, un peu de conduit. Les toits des maisons peuvent, non pas se toucher, se rejoindre, mais voilà, on a un effet tunnel en quelque sorte. Il faut imaginer aussi que du point de vue sonore, la circulation du bruit se fait beaucoup plus vite. Donc il faut imaginer tout le bruit de tous ces animaux qui circulent, qu'on entendait très fortement. En fait.
Donc beaucoup de promiscuité, hein, dans ce Paris moyenâgeux. Est-ce qu'on peut dire que ces animaux font office également des boueurs dans cette ville ?
Alors, les porcs, oui, bien sûr. Et ils sont acceptés tant qu'ils sont cantonnés dans les maisons. C'est-à-dire que chaque habitant peut avoir, la plupart du temps, sur l'arrière de la parcelle, un jardin potager avec une production qui sert à l'autoconsommation. Ouais. Et où on a le porc qui permet de consommer tous les déchets de la consommation alimentaire, tous les déchets ménagers. Mais ils doivent rester cantonnés normalement dans l'espace privé de la maison et de son jardin.
Normalement, dites-vous.
Normalement. Oui, effectivement, normalement, parce qu'en fait, on constate très bien, puisqu'on le voit répété en permanence dans les ordonnances royales, dans toute la législation seigneuriale, on dit qu'il est interdit de laisser justement divaguer les porcs. C'est-à-dire que les porcs doivent être guidés. Soit on peut avoir des porcs qui circulent en ville, mais ils doivent être sous la conduite d'un marchand qui est là pour les vendre. Soit ils sont dans les maisons, mais ils ne doivent pas errer tout seuls.
On imagine donc les métiers de la viande dont vous parliez tout à l'heure et l'abattage des bêtes, donc ce qui fait que on a des traces de sang, des entrailles, des peaux aussi qui peuvent s'accumuler sur le pavé ou ça reste caché quand même ?
Alors, les peaux, les entrailles ne s'accumulent pas sur le pavé parce qu'elles sont réutilisées. Il faut voir qu'on a une économie médiévale qui est en fait une économie qui est beaucoup plus axée sur le recyclage, tout simplement par économie de moyens. Et donc, tout les parties des animaux qui sont abattues, qui ne sont pas utilisées en dehors de donc tout ce qui n'est pas la viande consommable, va être réutilisée par d'autres artisans. Donc les tanneurs, les mégissiers, les tripiers, et la viande qui a déjà été abattue et qui ne ne peut pas être consommée, elle va être cuite et ensuite elle va être vendue à des artisans qui vont faire des petits pâtés à la viande, par exemple. La viande va être cuite. Elle va cuite. Donc en fait, on utilise le maximum quand même de la ressource animale.
Il y a une économie circulaire finalement, dans ce pari du Moyen-Âge.
Oui, pas par choix
écologique.
Mais tout simplement par pragmatisme, on réutilise le maximum de la viande.
Est-ce qu'on peut parler d'une pollution chimique aussi au Moyen-Âge, dans ces rues parisiennes?
Alors, oui.
Parce qu'il y a plein de métiers qui utilisent quand même des produits particuliers.
Tout à fait, et notamment tout ce qui va tourner autour de la production des draps de laine. Le drap de laine, au Moyen-Âge, c'est le produit porteur du dynamisme économique des villes médiévales. Hein. C'est un peu l'équivalent du coton et du charbon pour le 19e. Et qui dit drap de laine, dit teinture. Donc, on va utiliser des produits pour fixer les produits tinctoriaux. Il y a tout le tanin aussi, qui va être utilisé pour fabriquer les cuirs, la mégisserie, les fourrures. Bref, donc on a effectivement...
Les forgerons aussi utilisent des produits particulier?
Le métal, mais c'est pas forcément ça, c'est pas le plus polluant. C'est vraiment autour du traitement de la production textile qui est le plus qui produit les intrants les plus importants.
Et donc cette pollution, elle touche la ville vraiment de quelle façon? Ça sature l'air, ça se répand dans l'eau?
Alors, ça sature pas l'air. En revanche, ça diffuse effectivement dans la nappe phréatique.
Ouais.
À Paris, par exemple, sur la rive droite, qui est au Moyen-Âge le pôle principal de la ville, la nappe phréatique est à 5 mètres, à peu près, en dessous du sol.
Ouais.
Comme on n'a pas... se met en place progressivement un réseau d'égouts, mais qu'on n'a pas une évacuation systématique et hors de l'agglomération de tous ces intrants. En fait, évidemment, ils passent dans le sol et la nappe phréatique est effectivement consommée. D'autant que, alors, on a des puits sur la rive droite qui sont très nombreux et qui sont là aussi pour fournir l'eau concrètement au quotidien.
Est-ce que les médecins du Moyen-Âge font des liens déjà entre la santé et l'environnement, justement?
Tout à fait. La théorie qui domine au Moyen-Âge, elle est héritée de Galien, qui était un médecin grec de l'Empire romain, et qui a composé la théorie des quatre humeurs. Alors les humeurs, c'est quoi? C'est des fluides corporels, donc il y a le sang, le phlegme, la bile jaune et la bile noire. Et donc ces quatre humeurs, ces quatre fluides, doivent être en équilibre permanent dans le corps.
Mmh.
Et l'idée, c'était que si jamais il y avait une de ces humeurs qui était en excédent par rapport aux autres, cela créait un désordre, un dysfonctionnement du corps, et qu'il fallait donc rééquilibrer. Donc c'est pour ça qu'on faisait des saignées, par exemple, c'est qu'on estimait qu'il y avait trop de sang par rapport à la bile jaune, à la bile noire et au phlegme. Donc il y a d'une part cette théorie des quatre humeurs, des fluides corporels de Galien, et il y a aussi une conception qui intègre ce qu'on appellerait nous aujourd'hui la notion d'environnement, qui n'était pas le terme employé à l'époque, mais où il y a des éléments comme l'air, la nourriture et les boissons, mais aussi le sommeil et l'éveil, le mouvement et le repos, l'ingestion et l'expulsion, et les émotions. Tous ces éléments sont considérés comme déterminants dans la bonne santé, dans le bon équilibre.
Ouais.
Et il faut maintenir donc la santé, il faut maintenir tous ces éléments comme un flux sans entrave, avec donc une absence de séparation entre ce que nous, on appellerait la santé strictement physique et la santé mentale ou spirituelle.
Hélène Oiset, on va écouter pour le plaisir un petit extrait de la série Kaamelott, saison 2, épisode 64.
Bon, écoutez, vous m'aimez?
Bah oui.
Vous comptez me garder?
Oui.
Alors aujourd'hui, vous allez prendre un bain. Venez.
Je le sens pas.
Venez, je vous dis.
Je suis pas dans mon assiette.
Vous m'avez fait tout un cirque pour pas que vous le preniez tout seul. Maintenant que je suis dedans, vous venez.
Déjà, je vous regarde, comme ça je saurai comment on fait.
Bon, écoutez-moi bien, là, je commence à en avoir plein le dos de passer toutes mes journées à aérer la chambre. Et j'aimerais bien que pour une seule fois dans ma vie, je n'ai pas l'impression de dormir dans un chenil.
Je suis désolée, mais les autres, ils prennent pas plus de bains que moi.
Les autres.
Hélène Oiset, prendre un bain au Moyen-Âge dans la capitale n'était pas chose évidente?
Oui et non, il y avait quand même des étuves qui sont fréquentes, donc évidemment, on ne prend pas un bain chez soi, mais c'est réservé à l'élite. Mais par contre, il y a beaucoup de bains publics, des étuves, qui sont aussi des lieux très contrôlés par l'Église, puisque, évidemment, il peut s'y passer des choses, et donc, il peut y avoir... on peut contrevenir aux règles de la bienséance.
Oui, absolument. On voit de quoi vous voulez parler, a priori. Donc,
oui.
dans ces bains parisiens.
Oui, tout à fait.
Allez, dans un instant, on va voir justement, à partir du moment où on considère cette notion de santé publique, comment le pouvoir politique va intervenir pour s'en emparer. Et on va le voir, ce sera le début d'une gestion publique des déchets. On en parlera également avec les questions et les messages qui arrivent pour vous sur franceinter.fr. Paris, l'hygiène au Moyen-Âge, c'est le thème de l'émission cet après-midi.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Il y a un expert qui rentre avec un notaire et qui regarde la maison et qui dit à droite, il y a un lavabo avec sur le piédestal de bois une cuvette en laiton qui vaut à peu près tel prix, donc une prise en même temps, et une serviette en tissu, le tissu est coûteux, est suspendu à côté. Le minimum que l'on trouve et qui est l'objet le plus commun de l'hygiène, que ça aille des aristocrates aux paysans, c'est la cuvette. Donc la cuvette et les serviettes de toilette.
L'historienne Danielle Alexandre Bidon, toujours extrait d'un documentaire d'Arte sur le Moyen-Âge. On parle de l'hygiène dans le Paris, justement, de cette époque, avec vous, Hélène Noiset, qui est historienne, professeure d'histoire médiévale à Paris 8. Justement, à quel moment on peut commencer à parler vraiment de notions de santé publique au Moyen-Âge ?
En théorie, cela existe dès le XIIIe siècle. En pratique, on a beaucoup plus de traces d'institutionnalisation de cette question, c'est-à-dire à partir du XVe siècle, donc à partir du début donc des années 1400, on voit beaucoup plus cette préoccupation se transformer en normes, avec des injonctions dans les ordonnances royales. Mais on a longtemps pensé que la peste noire de 1348 avait fait émerger la question de la santé publique comme un domaine nouveau, ouais. Compte tenu de cette épidémie. Et en fait, non. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, avant même la peste noire, dès le XIIIe siècle, on a... en germe, en fait, déjà, toute la conception d'une santé publique qui va simplement être très accentuée, elle va être beaucoup développée après la peste noire, mais par exemple, cette idée qu'il faut agir à la fois sur les organismes physiologiques, mais aussi sur les catégories sociales jugées moralement dangereuses et réprouvées, ça, c'est quelque chose qu'on trouve déjà avant et qui va être accentué à partir du XVe siècle.
Alors, la gestion publique des déchets dans Paris, justement, comment on se débrouille au Moyen-Âge ? Comment les autorités médiévales, d'abord, expriment leurs préoccupations face à l'insalubrité ? Comment ça se traduit, ça ?
Dans un premier temps, jusqu'au XIVe siècle inclus, c'est des injonctions, des normes qui sont régulièrement répétées par essentiellement le pouvoir royal, aussi par les autorités seigneuriales et le pouvoir municipal, l'échevinal, l'échevinage, donc les trois pouvoirs principaux.
Donc c'est quoi ? Ce sont des ordonnances, des messages publics ?
Oui, donc pour le pouvoir royal, c'est essentiellement des ordonnances royales, mais qui peuvent être criées oralement, donc lorsqu'on veut faire connaître des règles.
Quoi par exemple, comme règle ?
Alors, on a un exemple intéressant, un cri de 1291, qui est proclamé à différents coins de la ville de Paris, où on va interdire tout un tas de pratiques dans le même le même cri. Donc on va interdire par exemple le jeu de dés, on interdit d'avoir des porcs dans les murs de la ville, on interdit aux lépreux d'entrer en ville. En même temps, on oblige chacun à faire nettoyer les rues en droit soi, c'est-à-dire devant sa porte.
Oui.
Et on interdit en même temps de vendre de la cervoise et du vin après l'heure du couvre-feu.
Pourquoi le jeu de dés, pardon, mais...
Et bien justement, c'est révélateur de cette conception holiste de la santé qui fait qu'on ne sépare pas le physique du spirituel. Et il est tout aussi important pour les gens du Moyen-Âge d'agir à la fois sur la dimension physique des déchets matériels que sur l'aspect spirituel. Et donc, des catégories sociales qui sont jugées comme moralement... qui sont réprouvées par l'Église, essentiellement, dangereuses, doivent être cantonnées, et il est considéré comme aussi important d'évacuer les déchets, les boues de la ville, que d'empêcher les lépreux, les joueurs de dés, les vendeurs d'alcool, c'est tout aussi important. Dans d'autres ordonnances, ça va être les prostituées, les mendiants, les juifs, qui vont être considérés comme dangereux pour le corps urbain et donc aussi pour le corps humain.
Donc il y a des mesures qui sont prises pour aussi impliquer les habitants de la capitale, à balayer un peu dans leur porte quand même.
Donc la règle, c'est que ça relève de la responsabilité individuelle.
Oui.
Jusqu'à la fin du XIVe siècle, les pouvoirs ne cessent de réitérer, de répéter l'injonction. Il faut nettoyer devant sa porte.
Donc il n'y a pas d'obligation ?
Si, il y a une obligation, il y a une règle, mais le problème c'est qu'on n'a pas les moyens,
oui,
il n'y a pas de police qui permet de l'appliquer, de vérifier qu'elle n'est pas appliquée. Alors, il n'y a pas une police publique, faut imaginer donc dans la ville de Paris, 250 000 habitants en 1300, on a quelque chose comme 400 sergents à cheval et à pied, comme effectif de police. Ça veut dire qu'on a en fait recours à un autre moyen qui va être l'autosurveillance généralisée, c'est-à-dire qu'on va inciter chaque habitant à dénoncer son voisin. Jamais il ne respecte pas la règle, il évacue ses déchets, qu'il dépose ses gravats ou ses cendres.
La délation au nom de l'hygiène, donc. Hein.
Voilà, c'est-à-dire que comme il n'y a pas des forces de police nécessaires pour faire respecter une règle, on essaie de faire en sorte que tout le monde surveille tout le monde.
Est-ce qu'il y a comme des amendes
Tout à fait, c'est des amendes. Et justement, on incitait les gens à dénoncer son voisin en étant intéressé, en percevant le tiers de l'amende. C'est-à-dire que si on arrête une personne et qu'elle est prise en flagrant délit de déposer ses gravats, par exemple, dans un endroit.
On peut avoir un peu de sous en même temps.
Exactement, voilà. Et c'est ce qui fait que ça a fonctionné, mais ça a atteint ses limites, en fait. Et on le voit justement à partir de la fin du XIVe siècle, où ça ne suffit plus. Cette autosurveillance généralisée ne suffit plus, c'est trop compliqué. Et là, on voit se mettre en place les premières institutions, en fait, d'un service de nettoyage, d'un service des éboueurs. Et c'est intéressant parce que ça part de la pratique. Pour le coup, c'est pas quelque chose qui est imposé par le haut. On a un premier exemple à Paris, en 1375, sur la place Maubert, où là, on voit les habitants de la place se plaindre, parce que la place Maubert est un lieu en rive gauche, qui est une place où il y a un marché qui se tient régulièrement, donc avec beaucoup de produits qui sont vendus, commercés, échangés. Évidemment, ça génère beaucoup de déchets après le marché. Et comme c'est à chaque habitant, normalement, d'aller porter ses déchets en dehors de la ville, dans des décharges. C'est à eux de payer des voituriers, comme on dit, par terre, donc des charretiers qui viennent avec leurs charrettes. Et que là, il y en a beaucoup. Les habitants de la place, en fait, demandent au pouvoir royal, au prévôt du roi, qu'il y ait des éboueurs, quatre en l'occurrence, qui soient instaurés de manière permanente, que ce soit à eux de nettoyer la place de façon régulière. Et évidemment, comme c'est un coût, puisqu'il va falloir les payer, ces charretiers, ces voituriers, on crée une taxe qui doit être payée à la fois par les habitants de la place, mais aussi par les usagers de la place. Ça veut dire que les marchands qui viennent de l'extérieur, qui n'habitent pas cette place, mais qui concrètement viennent changer leurs produits, sont aussi taxés.
Donc
et ça, c'est le premier exemple, en fait.
On professionnalise, en fait, hein, c'est
tout
ça,
à fait.
Le nettoyage. Hein.
On commence, c'est-à-dire qu'on va réserver cette fonction à des professionnels qui sont payés pour ça, et on ne compte plus simplement, uniquement, sur le respect de cette règle par chaque individu.
Allez, encore une histoire de bain chez les nobles, cette fois-ci. Et pour en parler, on va écouter Stéphanie Collin, qui est responsable de formation au château de Chamerolles.
Toute la période du Moyen-Âge, on est très très propre, puisqu'on va dans les thermes et les étuves, ça existe dans toutes les grandes villes. Et les nobles ont chez eux un baquet, qui leur permet de prendre un bain quotidien. Il n'y a pas de pudeur, on va se baigner nu, et c'est un bain de convivialité, de détente, où on aime se retrouver ensemble. C'est-à-dire que quand des amis arrivent, l'ami peut prendre place avec soi dans la baignoire. S'ils sont plus nombreux, c'est pas grave, on installe plein de baignoires dans la pièce et tout le monde va se baigner ensemble. On va passer à peu près 3 heures dans sa baignoire. On va mettre un couvercle pour maintenir l'eau chaude. Et puis aussi, on va s'occuper. Donc là, pour s'occuper, eh bien, on va prendre appui sur le plateau et on va écrire, jouer aux cartes ou pourquoi pas manger.
Ah, c'est sympa ça. On devrait s'en inspirer aujourd'hui, accueillir ses invités directement dans la baignoire. Pour occuper ces soirées.
Vous êtes libre ce soir, vous m'invitez ?
Donc, ça se passe chez les nobles, hein, en tout cas. C'est ça, hein,
oui.
C'est des pratiques.
Oui, qui ne sont pas partagées, qui ne sont pas communes, qui sont réservées à une élite qui a les moyens de pouvoir fournir en eau chaude le bain.
Donc ça aussi, ça vient un peu contrecarrer les idées reçues sur l'hygiène quand même au Moyen-Âge. Bon, même si là on est chez les nobles, hein, ceux qui ont de l'argent, mais quand même il y a une pratique de l'hygiène, du bain, qui est assez courante. C'est pas totalement l'image qu'on a de ces personnes avec des dents extrêmement gâtées, ne se lavant jamais.
Non. non, effectivement, c'est une image d'Épinal qui, par rapport à notre, nos normes de santé, évidemment qu'on n'est pas, j'allais dire, aussi propre qu'aujourd'hui. Mais par contre, c'est pas du tout, effectivement, on n'a pas affaire à une population de personnes sales, systématiquement malodorantes ou qui ne se préoccuperaient pas de sa santé. Non, pas du tout. On a les moyens, avec de l'eau simplement dans des cuvettes, hein, dans des pots, pour se nettoyer.
Donc ça pour toute la population ?
Oui, ça oui, l'accès à l'eau, alors, pas forcément sous forme de bain chez soi, mais ouais. L'accès à l'eau pour se nettoyer, sous forme de cuvette, de pot, oui.
Hélène Noiset, vous nous parliez de la professionnalisation donc, tout à l'heure du nettoyage, avec donc, les ramassages d'immondices qui étaient organisés, place Maubert en particulier, dès le XIVe siècle. Est-ce que ça s'est étendu à toute la ville ou ça restait quand même localisé à des places, par exemple, comme ça, importantes ?
Alors, ça s'est diffusé, effectivement, à partir d'initiatives ponctuelles. Donc, au départ, ce sont les places principales qui sont l'objet de cette innovation, en fait, politique. La place Maubert, 1375. Au XVe siècle, la place de Grève, donc la place de l'Hôtel de Ville, le port principal de la ville au Moyen-Âge, ouais. Châtelet. Et à partir des places, on voit ensuite se mettre en place le même processus pour des rues. Alors, au départ, c'est toujours ponctuel durant le XVe siècle. Dans telle rue, on se rend compte qu'évacuer les déchets, c'était accumulé et que ça devient trop lourd pour les habitants. Donc, on fait appel à des charretiers. Donc, il faut les payer. Donc, on met en place une taxe. Et ça, ce principe-là, pendant tout le XVe siècle, les initiatives ponctuelles se mettent en place pour telle rue, telle place. Et par contre, on a un arrêt du Parlement en 1500 qui généralise la procédure et qui va donner le pouvoir au prévôt de Paris. Le prévôt de Paris étant le représentant du roi à Paris. Donne le pouvoir au prévôt du roi de prélever une taxe pour évacuer les boues, donc ouais. les déchets, à l'échelle de l'agglomération.
Et donc ça, c'est-à-dire que tous les habitants la payent, là, cette taxe
hein. Tout à fait.
Ouais. Donc c'est ce qui change aussi. Hein.
Voilà, et en 1500, et c'est généralisé. Voilà. Là, ça n'est plus simplement pour telle rue ou pour telle place.
Ouais. On va voir que ces mesures autour de l'insalubrité ont modifié aussi la morphologie de la capitale, et ça c'est assez étonnant, on va en parler dans un instant. Et puis vous répondrez aux messages et aux questions qui arrivent pour vous sur la page de l'Atéro Carré.
France Inter. La Terre au carré.
Bon, allez, symphonie-vous de bon cœur. Et insistez bien sur les pieds.
Le savon et les salles de bain sont là.
Allez-y, franchement.
Qu'est-ce qu'ils ont nos pieds, Messing?
Je n'en sais rien, ce gueux finasse sans arrêt. Ah.
C'est bouilli. Allez, mets-les au corps. Jatouille, frotte-moi.
Oh, quelle étrange brassoir.
Il fera bien l'affaire.
Vous vous en sortez?
J'ai fini mes ablutions. À toi.
Non, 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 messire. Moi, c'était pas la peine. J'ai pris un bain il y a 2 mois dans la rivière.
J'ai fini mon lavement, tu peux y aller.
Ah, non, non, ah, c'est trop bouilli.
Qu'est-ce qui fabrique?
C'est bouilli.
Ah. Arrêtez de chahuter.
Ce n'est rien, j'ai dû presser ce maraud pour son lavement. Je vais me sécher à la bonne flambée.
Extrait des Visiteurs, bien sûr que tout le monde a reconnu, 1993, ce film de Jean-Marie Poiret, Jean Reno, Christian Clavier, pour parler de l'hygiène dans le Paris du Moyen-Âge, avec vous, Hélène Noiset, historienne. Alors là, vous allez nous raconter quelque chose que j'ignorais, moi, au sujet de la morphologie, en fait, de la ville, avec l'accumulation des déchets. En fait, on peut dire que ça a complètement transformé le paysage parisien.
Tout à fait, le sol urbain. Il y a une réalité qu'on n'imagine plus depuis le 19e, puisque le niveau des rues a été bitumé, et donc le niveau du sol a été en quelque sorte fixé, ouais. figé, scellé, et depuis, le niveau du sol voilà, n'augmente plus. Mais c'est assez récent, en fait, dans l'histoire des agglomérations urbaines. Depuis l'Antiquité et jusqu'au 19e, le sol ne cesse d'être rehaussé régulièrement, les voies étant souvent donc, en terre, on fait des recharges en gravier, en sable, et on a en fait une surélévation de la ville de façon progressive mais certaine. Et alors parmi les surélévations très nettes, Il y a les décharges, ce qu'on appelle les voiries dans les documents médiévaux, puisque donc chaque habitant devait aller porter à l'extérieur de la ville, à l'extérieur des murs de l'enceinte, ses déchets. Et en fait, l'accumulation de ces déchets finit par produire des petites buttes qui ne sont pas si petites que ça.
Ouais.
On en a des exemples. Ces voiries, donc à l'extérieur de l'enceinte de Charles V, entre au moment de la seconde moitié du XIVe siècle, construite au moment de la guerre de Cent Ans.
Donc ce serait dans quel quartier de Paris aujourd'hui, finalement?
Tous les grands boulevards à l'extérieur, donc Saint-Honoré, la porte Saint-Martin, la porte Saint-Denis, la porte République, Bonne Nouvelle, sont des buts qui sont en fait complètement artificiels, formés de l'amoncellement des déchets organiques, des gravats déposés par les habitants de Paris, et qui surélèvent le sol de manière très nette.
C'est-à-dire, ça peut atteindre combien de mètres de haut ?
À la butte des Moulins Saint-Honoré, 9 mètres. Ouais. À la butte de Saint-Martin, de la porte Saint-Martin, plus de 12 mètres. Et Bonne Nouvelle, 15 mètres 50.
15 mètres 50.
15 mètres 50. Et encore aujourd'hui, quand vous vous promenez à Bonne Nouvelle, justement, vous voyez cette butte qui est en fait complètement artificielle, qui est due à l'amoncellement des déchets organiques. Il faut imaginer Paris en 1300, 250 000 habitants, c'est la plus grande ville de l'Occident latin. Si on imagine 150 grammes de matière fécale produite par habitant, par jour, on est à 38 tonnes.
Ouais.
38 tonnes que vous devez, et sans compter les animaux, parce qu'il y a certainement au moins autant d'animaux, tous ces déchets, il faut les déposer justement dans ces décharges, hors des murs de la ville. Eh bien, 38 tonnes par jour pendant 400 ans, ça fait 15 mètres.
Eh ben oui, carrément. ça va très très vite. Ouais. Et alors, au-delà d'être un lieu pour jeter les déchets, est-ce que ces buttes, par exemple, avaient des usages particuliers? Est-ce qu'on en trouvait une autre fonction?
Oui, alors d'abord pour le dépôt des déchets, ça servait en quelque sorte de composteur géant avant la lettre, puisque dans ces décharges, on devait séparer le dépôt des matières, des excréments, des matières organiques, qui étaient laissées donc macérées, on comptait 3 ans à l'époque de Louis XIV, et qui ensuite étaient récupérées par les cultivateurs de la banlieue, qui s'en servaient comme engrais pour amender les champs, les cultures, les potagers. Donc, voilà, la matière organique produite par l'agglomération urbaine nourrit la campagne, en fait. Hein, il faut régulièrement, et ça permet de vider ces décharges. Et sinon, ces monticules vont être utilisés pour installer des moulins à vent.
Ah oui.
Des moulins à vent, puisque, et on les voit très bien sur les premiers plans, le premier plan de Paris du XVIe siècle, des petits moulins qui utilisent l'énergie éolienne pour moudre le grain et produire la farine nécessaire.
La butte Montmartre, c'est une butte de déchets ou c'est une autre histoire?
Non, la butte de Montmartre, c'est une vraie colline, c'est un vrai relief.
Là, on est au-delà des 15 mètres,
très
nettement. Parlons un petit peu de la gestion des eaux usées également dans ce Paris médiéval. Hélène Noiset, les eaux souillées, elles s'écoulaient où alors exactement?
Alors, la plupart du
dans
temps...
Dans la Seine?
Dans les rues, et ça rejoint effectivement soit la Seine, lorsqu'on est à proximité donc du lit de la Seine, et sinon quand on est un peu plus au nord, ça rejoint une grande dépression dans laquelle on va faire creuser le grand égout de la rive droite, qui est en fait creusé à partir de... on le voit déjà dès le XIIIe siècle, dans un secteur qui est une ancienne zone humide, qui est en fait tout simplement l'ancien cours de la Seine.
Ouais.
Alors, il y a très longtemps, à l'Holocène, donc 10 000 avant Jésus-Christ, ce qu'on appelle le paléoméandre de la Seine, c'est-à-dire que le tracé de la Seine formait un méandre qui partait en gros de l'Arsenal, qui passait au pied de Ménilmontant, Belleville, Montmartre, et qui rejoignait le tracé actuel au niveau de Chaillot.
Tout ça, c'est les égouts ?
Non, tout ça, c'est un ancien cours d'eau qui forme donc... une dépression, un immense fossé, et qui va être réutilisé par les habitants de la fin du Moyen-Âge pour creuser le grand égout, puisqu'on est très pragmatique, on va éviter de se fatiguer à creuser un égout. On réutilise donc cet écoulement, donc ce talweg, en suivant la plus grande pente d'écoulement, pour mettre en place le grand égout qui va collecter toutes les eaux qui ruissellent à travers les rues et qui rejoignent ce grand égout.
Est-ce qu'on peut dire finalement que les ordures, les déchets dont vous nous parlez, ont façonné vraiment l'histoire de Paris telle que nous connaissons aussi la capitale aujourd'hui.
Oui, tout à fait.
Il y a tout un héritage et donc qu'on ignore, mais qui est vraiment basé là-dessus.
Oui, tout à fait. Quand ce fameux égout de la rive droite, il est encore perceptible aujourd'hui. Si vous vous promenez dans les rues de Paris, sa forme semi-circulaire est encore perceptible.
Où est-ce qu'on peut le voir, alors?
Rue des Écuries, dans le 10e, rue Richer, rue de Provence.
Et qu'est-ce qu'on voit exactement?
Alors, ce qu'on voit, c'est une enfilade de rues qui reproduit la forme du tracé de l'égout qui lui elle-même reproduit la forme de l'ancien cours d'eau.
Oui, donc il faut le savoir. Oui,
oui, effectivement.
Il faut une historienne avec soi.
Oui, peut-être. mais on peut repérer un tracé circulaire qui est très différent, par exemple, d'une percée haussmannienne.
Donc on a encore cette histoire aujourd'hui. On peut quasiment visiter Paris avec, dans l'idée en tout cas, de cette histoire médiévale des déchets et de l'hygiène aussi. Hein. Hélène Noiset, on va passer aux questions des auditeurs et auditrices. Marie vous demande s'il y avait des WC publics dans les villes du Moyen-Âge et pas seulement à Paris.
Non, il n'y a pas de latrine publique. En théorie, donc on incite chaque maison à disposer de fosses d'aisance, d'une pièce réservée.
Donc c'est une fosse.
Oui, ça peut être une pièce à part et qui doit être, alors qui peut être d'ailleurs en surélévation, en surplomb en fait, et qui donc les excréments tombent au sol et il faut prévoir au sol une petite couche de sable pour absorber les matières donc organiques.
À partir de quand ça arrive finalement les WC publics? Beaucoup plus tard?
Oh oui, beaucoup plus tard, oui. Alors là, c'est une colle. Moi, j'aurais dit pas avant le 19e, je pense.
Johan aimerait savoir à partir de quand les matières organiques ont été ramassées pour les maraîchers autour de Paris. Vous en parliez très rapidement tout à l'heure.
Oui, très tôt. En fait, concrètement, c'est utilisé au moins dès le 13e siècle et on le voit encore plus à la fin du Moyen-Âge parce qu'on a plus de documents. Les cultivateurs de la banlieue viennent récupérer les matières fécales pour se servir, pour s'en servir d'engrais pour cultiver la terre.
Allez, on a une note vocale de Pascal qui vient de nous contacter sur l'appli Radio France.
J'écoute votre émission sur le Moyen-Âge et découvre que le Moyen-Âge avait donc inventé la taxe d'habitation afin de payer la levée des ordures et que notre président, avec sa grande vision progressiste, a tout simplement supprimé. Donc du coup, on va se retrouver de nouveau avec des problèmes d'ordures. Merci.
Hélène Noiset, qu'est-ce que vous répondez à Pascal? On peut considérer ça comme une taxe d'habitation?
On peut le formuler comme ça, oui. Effectivement, c'est l'idée qu'il y a une prise en charge publique par une taxation pour évacuer les déchets dans une politique publique, pour un intérêt public. C'est-à-dire qu'on ne se contente plus de laisser cette responsabilité à la charge des individus.
Chantal aimerait savoir si Paris a inspiré d'autres villes en France ou ailleurs sur sa gestion précisément des déchets, sur sa politique autour de l'hygiène.
Inspiré d'autres villes, je ne dirais pas ça. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on retrouve un certain nombre de pratiques parisiennes ailleurs. Après, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est un modèle parisien qui aurait été copié ailleurs. Non, ça, je ne pense pas. Mais on retrouve cette même évolution avec une mise en place progressive d'une politique publique, de santé publique à la fin du Moyen-Âge.
Merci beaucoup, en tout cas, Hélène Noiset, d'être venue nous voir aujourd'hui à la Terre au Carré pour nous parler donc de l'hygiène dans ce Paris médiéval. Et puis, pour ceux qui passent dans la capitale, il y a toujours le musée Cluny à découvrir et qui a fait peau neuve depuis maintenant 2 ans. Merci à vous.